Combes-Laval et le paysage économique et industriel. Panoramique à pied d'une vie parfois insoupçonnée, au cœur d'une vaste impasse naturelle avec l'association Royan d'hier et d'aujourd'hui.
La route est actionnée par l'eau et elle actionnée quoi ?
Une balade commentée dans le cadre de l'événement Fenêtre ouverte sur Combes-Laval, réalisé le 2 juillet 2013.
Donc le Cholet, avant 1850, il passe là.
Départ depuis le lieu-dit Les Forges à Saint-Laurent-en-Royans jusqu'à Fond-Laval, confins de cette immense reculée géologique.
Là, on a la preuve pour les archives.
Arrêt numéro 7 et dernier épisode. Après avoir quitté l'usine de moulinage de Laval, les participants se laissent guider tout au long de ce fil de vie que représente le Cholet et la diversité d'activités humaines qui en a découlé, notamment ces fameux moulins à eau et scie hydrauliques, composantes incontournables de ce patrimoine industriel.
La fontaine miraculeuse, la source miraculeuse. Alors miraculeuse, bon.
Qu'est-ce qu'elle est miraculeuse?
Eh bien, il paraît qu'elle enlève les boutons, elle fait une jolie peau.
Une peau de bébé.
Bon.
Ah oui, ça, c'est que
la rache.
Là-haut, dans les chancrures, là, il y avait un grand pré là, qui est maintenant tout boisé. Et il y avait un câble qui descendait jusque, je sais plus où, là, jusqu'au chemin du Pas. Dans les chancrures, là, il y avait un câble. Quand on y va, d'ailleurs, on trouve encore des câbles, oui, là-haut. Des morceaux de câbles d'ancrage. C'est des câbles qui servaient à descendre du foin. Et là, maintenant, c'est tout boisé, là-haut, mais il y avait une grande prairie. Hein, Courteau. Vraiment, il y avait une grande pelouse, il y avait de grands espaces qui étaient fauchés. Hein, et récolter les foins, là. C'est un prolongement de la combe qui part de la croix, là, qui monte jusqu'à haut.
Il doit y avoir des pas, là, j'ai tourné les machines.
Le pas du pas, comme on dit chez nous.
Ouais. Mais bon, le pas.
Non, le plus de là-bas.
Il y en a un arbre. Et en l'arbre, c'est où en l'arbre?
Montagne de l'arbre, c'est dessus.
En l'arbre.
Quand on dit en l'arbre, c'est le plateau de ce dessus.
Ah, d'accord.
On y croit.
Il y avait un auvent sur le cet auvent, il y avait le clocher qui était construit, un clocher carré. Et à droite au fond là-bas c'était le prieuré et là c'était le presbytère. À gauche vous aviez le cimetière. La route venait par ici, elle a été remontée au 20e siècle. Là, je crois qu'il faut qu'on revienne. On a retrouvé des tombeaux gallo-romains. Voilà. La source se trouvait là-haut, à la prise d'eau, derrière le muret. Hein.
Ouais. Voilà. Et alors, on ne comprend pas pourquoi il y avait toujours... On se demande pourquoi il y avait autant de tombeaux. Ils ont
ben oui, parce que c'est un site qui, finalement, a été occupé très longtemps, depuis très longtemps.
Voilà. On est sur un cône d'éboli, et la source, elle est prise dans le cône d'éboli.
Ah, d'accord. Voilà.
On l'avait visité avec André. Ouais. On a cherché d'où venait cette source. En fait, il y a un cône déboulé au-dessus et c'est capté dans le cône.
Donc, c'est dans la...
En-dessus de la du muret, là.
Au pied du peuplier, de la rivière d'eau.
Ouais.
Un bras celui-là. Puis l'autre côté, il y a un petit bras qui passe de l'autre côté.
Voilà.
Et la source est au milieu des deux.
Ah, d'accord.
Et la prise d'eau, ben, alimente Saint-Laurent.
Ouais. Mmh. Donc, vous avez de l'eau miraculeuse à Saint-Laurent.
Et on n'en profite pas, on ne revend pas, c'est pas comme à Lourdes. Hein.
N'ayez pas peur des broussailles, il n'y a pas grand-chose.
Encore un peu de cap, c'est plus de la géologie, mais regardez ça comme ça. Vraiment dans l'axe. On voit le fond. Voilà. Ce qu'on voit ici, il faut se le représenter. Là-bas au bout, il y a quelques millions d'années. Et c'est, ouais, c'est tout ça, reculé comme ça.
C'est l'effondrement successif. Hein.
Attends, on va attendre voilà. On voit bien qu'on est à 2-3 jours de l'effondrement.
Ah oui, là, on est le 3 jours.
Et ça, ce sont les vestiges de la ligne aérienne.
D'accord. Merci. Donc, sur le cadastre napoléonien des années 1829, est dessiné un petit canal et le moulin. Alors, il faut imaginer que ce petit moulin se trouve là en dessous.
On n'ira pas parce que c'est trop...
On n'ira pas parce que c'est très touffu, puis il n'y a plus grand-chose à voir. Voilà. Là, descend donc un petit ruisseau, mais en fait, ce n'est pas celui qui était utilisé pour...
C'est là où je me tiens à écouter un peu.
Pour le moulin. Par contre, un petit canal parallèle au Cholet, arrivé 300 mètres plus haut, enfin, démarré 300 mètres plus haut, et venait donc jusqu'à ce petit moulin. Nous ne savons pas grand-chose de ce petit moulin. Le quartier est indiqué à l'époque les Marions. Quand nous allons reprendre la route, à 500 mètres à peu près, il y avait un ensemble de petites maisons qui aujourd'hui ont disparu. Voilà, elles n'existent plus. Alors nous avons trouvé la trace de propriétaires à une époque, dans les années 1845-1850. C'était des Breniers. Voilà. Mais nous ne savons pas grand-chose sur leur vie, sur ces personnes. Ce que nous savons, c'est que en 1856, ce monsieur Brenier François avait 50 ans. Son épouse, c'était Guinard Rosalie, et ils avaient 3 enfants. Et du fait que la famille s'était agrandie, ils ont transformé un petit peu le moulin, et ils avaient agrandi donc le moulin. Des traces de moulin, de pierres de meules. On trouve des noms de lieux-dits. Par exemple, un peu plus bas, toujours sur le long du Cholet, il y a un lieu-dit qui s'appelle la Molière à Saint-Thomas. Et là, effectivement, il y avait une carrière de meules. Parce que bien sûr, les meules dans le moulin, c'était un élément déterminant, très important. En fonction de la qualité de la meule, était la qualité de la farine et du pain, bien sûr. Dans les époques anciennes, le pain était souvent assez rustique, avec des petits grains que l'on sentait sous les dents, et qui avaient tendance justement à abraser les dents, à abîmer la dentition. Il faut bien penser que dans les années anciennes, les gens consommaient beaucoup de pain. Il pouvait y avoir jusqu'à 70-80% au niveau de l'alimentation journalière qui était sous forme de pain. Les gens trempaient le pain dans des sortes de soupes, faisaient des espèces de bouillies. D'où l'importance de la qualité des moutures. Et bien sûr, une pierre. Enfin, les pierres pour les moulins, c'était très cher, c'était très difficile à extraire. Et ça représentait un investissement énorme sur un moulin.
Sur la valeur d'une pierre de peu bonne qualité, la valeur de la pierre, c'est la valeur d'une maison. Tout ça dépend de la longueur du transport. Les gens sont corvéables. Certaines populations se rebellent, ne veulent plus participer au transport des pierres. Tant que le trou n'est pas percé, on transporte une pierre. Les droits de péage sont moindres. On perce, la meule est prête à, disons, opérationnelle. Le trou du centre est percé par lequel va arriver le grain et évacuer la farine. On transporte une meule. Les droits de péage ne sont plus les mêmes. Ils sont beaucoup plus importants. D'où un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? On transporte une pierre, soi-disant, on ne paye pas trop de péage élevé. Et quand on arrive près du moulin, on fait le trou. Mais qui est-ce qui fait le trou? Le maçon du coin, le forgeron. On casse la pierre. Bien, qu'est-ce qu'on dit? On fait un procès. C'est pour ça qu'on connaît si bien ces parcours de pierre et d'où elles viennent, leur provenance. Vous nous avez livré des meules de pas bonne qualité, et ainsi de suite, parce que ces pierres étaient quelquefois stockées debout. Et une partie, avec leur poids, leur inertie, était dans la terre. Elles s'attendrissaient. On trouve très bien ça tout simplement dans les pierres à aiguiser les faux dans les...
Les pierres ont un creux.
Un creux. Ouais. Parce qu'on vidangeait jamais la réserve d'eau. La réserve d'eau, la pierre trempée dans l'eau, et elle était bien plus tendre. Il y avait le même phénomène dans les meules. D'où le choix de la meule, déjà, quand elle vous était vendue. Les gens, bien sûr, quand vous allez chercher, et ben, là, aussi, il y avait des fraudeurs comme de partout. On vous présentait de belles meules. Et si elle n'était pas coupée aussi exactement dans la strate, bien de façon horizontale, que les veines se croisent un peu, ça les fragilisait. Donc, ces histoires de procès nous permettent de remonter ces histoires et connaître leur provenance. Et tout le monde s'est toujours battu pour avoir du pain de bonne qualité. Le moulin, celui-là, je pense qu'il est tout à fait récent, parce qu'après les révolutions, n'importe qui peut monter un moulin. Il n'est pas obligé de passer par le seigneur laïque ou ecclésiastique pour avoir le droit de moudre. Et tout le monde a cherché, depuis les origines de la meule, avoir du pain blanc, de la farine blanche. Tout ça, voilà. Et ça, le seigneur le devait. C'était un dû. On était obligé de moudre chez lui, mais il devait vous fournir de la farine de bonne qualité. Et les gens, aussi loin qu'on remonte, sont toujours plaints du manque de qualité de la farine. C'est ce qui a fait pousser. On est allé chercher des meules jusqu'à la Ferté-sous-Jouarre de chez nous, tout près de Paris. Quand on a commencé à les faire en pièces détachées, les meules, c'était des morceaux qui étaient assemblés, cerclés de métal, quand le métal est apparu. Et ils avaient tout sur place, les Parisiens, parce qu'il y avait le plâtre blanc de Paris qui servait pour faire les joints, pour jointer ces meules. Et ces meules sont parties jusqu'en Amérique pour... elles servaient de lest dans les bateaux. On retrouve des meules qui sont la Rolls de la meule dans le monde, on les retrouve jusqu'en Amérique. Alors, vous rendez compte le prix de la meule. Pour être tenant, c'est le prix d'une maison, quoi. D'où l'importance, c'est... de ces objets. Voilà ce que je peux vous dire, en grosso modo, sur les meules. Et là, je pense que c'est un moulin avec une roue horizontale. C'est pas une roue de pêche, comme on a vu tout à l'heure sur la photo. C'est une roue qui est à l'horizontale. Là, l'eau arrive sur le côté et fait tourner. L'arbre est directement pris sur l'arbre. Et ça, on retrouve en bas, on retrouve encore... cette voûte, c'est bâti, c'est voûté, avec l'arrivée du canal, et on le retrouve, mais bon, il faut se mettre à quatre pattes, c'est plein de cailloux, il y a des vipères au bord de la route, je ne voudrais pas que ça se termine voilà, par une morsure, parce que c'est souvent habité, c'est vieilles ruines, par ces petites bestioles, et c'est pas facile d'accès, il faut descendre dessous, là, après y remonter, mais voilà. Et c'est dommage, parce qu'on voit bien l'arrivée du canal encore, on le devine parfaitement. Il est encore bien visible à cet endroit. On comprend bien le fonctionnement, l'alimentation en eau, son évacuation, ces deux voûtes. Il y a deux voûtes. Une, c'est certaine, on voit bien, il y a le trou de l'arbre encore qui est tout poli et tout bien joli. Et l'autre à côté, je me doute, je ne sais pas ce que ça peut être. Je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là pour pouvoir l'expliquer davantage. Est-ce qu'il y aurait eu deux roues? Il faudrait démonter toutes les ruines, retrouver le socle, où étaient les pierres, pour savoir ce qu'il en est. Mais là aussi, c'est du domaine privé. C'est un projet de deuxième.
Les gens descendent de ruisseaux peut-être. En fait, bon, c'est vrai que c'est plus visible en plein hiver.
Oui, la végétation est là.
Ça, c'est fait avoir.
C'est fait croiser. Elle est belle, hein?
Oui, elle est belle. C'est doré. Mais c'est la saison. Il fait chaud.
Allez, on poursuit doucement. Ou alors,
Là, il y a une scie qui est située ici. Alors là, pour. Comme on connaît l'histoire de cette scie, pour. Personnellement, la scie, on n'a pas trouvé de texte qui nous parle de cette scie. Elle est citée simplement qu'entre d'autres personnes, dont M. Milleret, qui est propriétaire des forges à ce moment-là, en 1821, fait une demande de scie. Il y a une enquête qui se fait, comme ça se fait encore à l'heure actuelle, commodo en commodo. On affiche en mairie cette proposition. Et si des personnes font opposition, ils ont 15 jours pour faire ça. Et apparaît une opposition d'un monsieur Lamberton, père et fils, qui habite à Laval, font opposition à cette scie de monsieur Milleret. Donc on apprend qu'il y a vraiment une scie à Laval. C'est M. Lamberton, on les trouve possédant, on retrouve leur nom dans des recensements communaux, voilà, dans les certaines années, sur le Grand Laval. Par le numéro des parcelles, aussi sur le cadastre, on les retrouve propriétaires des lieux, et ainsi de suite. Mais cette scie, elle opère presque en fraude un peu, cette scie. Parce qu'il fait opposition, bien sûr, il y a enquête. Monsieur Milleret ne se laisse pas faire comme ça. Lui, il en a besoin. C'est peu de temps après la création de la route impériale qu'on a vue. Et il veut faire une scie à Rimet, où on a vu la première centrale électrique. Il y a là, à l'origine, deux martinets. Et ils veulent récupérer l'arrivée d'eau des martinets pour faire tourner cette scie. Lui en a besoin pour pouvoir faire des planches, il dit, pour loger ses ouvriers, charbonniers ou autres en montagne. Monsieur Lamberton fait opposition en disant « Oui, vous voulez bien faire une scie, mais vous en possédez une déjà, là-haut, la scie des Chartreux, sur la forêt de Lente. » Cette scie des Chartreux se trouve en dessous de la ferme des Chartreux. On retrouve encore l'emplacement à l'heure actuelle. Et Monsieur Milleret dit « D'accord, mais elles sont mues par les eaux du Brudour. » Le petit ruisseau qu'on disait tout à l'heure, qui était très temporaire, qui est là en état en pleine eau, que pendant les pluies. Il dit, d'accord, il y en a une scie, elle appartenait aux Chartreux. Déjà, les Chartreux sont plus là depuis bientôt 70 ans. Donc, elle est en très mauvais état, il dit. La scie est en mauvais état et elle peut tourner que quelques jours par an. Mais cette scie, c'est très difficile. L'époque napoléonienne, les réglementations des eaux et forêts commence à rentrer en vigueur. Donc on envoie un garde à cheval qui part du pont impérial tout à l'heure, qui va mesurer la distance qui sépare ce projet de scie des forêts pour éviter les coupes de bois en fraude. Il faut que la scie soit distante de tant de myriamètres à l'époque. Alors il parle de myriamètres. Je cherche sur internet myriamètres. Égale 10 km. Et lui, il en trouve 2 et 2 km. Je lui dis, attendez, il n'y a pas 22 km pour monter à l'angle de là. Alors, je fais des recherches, une personne m'aide et je trouve les mesures qui étaient d'époque. Voilà. Bon, j'ai confirmation. Ce sont des lieux actuels et les lieux de Delay. Oui. C'est des microns. Ils sont bien plus courts et on retombe sur les distances. À peu près voilà.
Normal.
Des distances normales. Et il est dit dans ce rapport que la scie Lamberton, ce sont les premiers fraudeurs de la région. Parce qu'ils coupent du bois en fraude qui balance du haut des falaises. Il n'y a pas de chômage, il n'y a rien du tout. Non. Oh, mais bon, il y a prescription. Hein. C'est allant en 1820 et des poussières.
Depuis, il y en a eu d'autres.
Il y en a eu d'autres. Donc, ce monsieur Milleret obtient sa permission de faire sa scie. Plusieurs personnes ont fait des demandes. D'abord, monsieur Tortel demande de scie temporaire. Parce que, dès quelques fois, on vous a accordé une autorisation pour un laps de temps. Et si vous ne fraudriez pas, on pouvait poursuivre. Et là, il semble que c'est peut-être une demande de scie permanente que ce monsieur Milleret aurait eu. Voilà. Donc on connaît l'histoire de cette scie par l'intermédiaire de celle de monsieur Milleret qui veut en créer une autre. Et autrement, je n'ai pas de facturation ou quoi que ce soit, de témoignage. On retrouve des Lambertons, oui, bien sûr.
Et donc, le monsieur âgé que nous avons vu tout à l'heure à sa maison, là, à côté de la petite église, monsieur Armand. Donc, ce monsieur Armand dit le roi. Son nom vient des ancêtres. Armand-Étienne dit roi, et consort. Dans les années 1831, il possède déjà les parcelles, là, la numéro X, Siao, et l'autre, numéro 615, Canal de la Scie. Donc ça, c'était dans les années 1834.
Mmh. Il y avait la montagne de la Scie aussi.
Comment ?
La montagne de la
Scie. La montagne de la Scie, en face.
Côté Saint-Jean.
Et encore à l'heure actuelle, sur les cartigéennes, ce quartier est appelé le quartier de la Scie. Encore à l'heure actuelle.
Alors, toujours même principe, comme tout à l'heure, on vous a dit pour le petit moulin, un canal qui prend l'eau d'arrivée. Alors, il est encore bien visible, effectivement, mais là, il n'est plus en eau du fait que les eaux du Cholet sont basses. Ce petit canal va suivre une courbe de niveau et tout d'un coup, va obliquer à 90 degrés et permettre une chute, pour la petite scie qui est installée plus bas. Et la propriété agricole, les bâtiments agricoles étaient un petit peu plus haut que le départ du canal. Il y avait une ferme importante avec des dépendances. Et là, pas très loin, au bord de la route, on retrouve des petites ruines qui sont à peu près en face de cette scie. Donc, de partout, c'est vrai qu'on a, dans les années, sur ces cadastres comme ça, des années 1815 à 1830, on trouve des emplacements d'habitats. Et d'habitats qui étaient permanents. C'était pas de l'habitat saisonnier. Hein.
Bien sûr.
Si vous voulez vous repérer, là, tout ce que vous avez vu, on est vers la Combe, elle est là, hein, le bout de la reculée est ici. On est parti des forges, on a fait l'usine hydroélectrique et le pont de la route impériale. Hein. Là, on a fait le quartier Saint-Mémoire Laval, là où nous avons mangé. Le quartier du Moulin, c'est-à-dire c'est de Marion, hein, le quartier de la Scie dont on parle maintenant, et on va déboucher en fin de compte au fond de Laval. Alors si vous voulez voir quelques photos, puisqu'on n'a pas pu descendre, sur le Moulin, voyez ce qui reste, cette espèce de comment on appelle ça,
de voûte,
hein, au ras de la rivière, et on est descendu à l'intérieur de l'endroit où il y avait ce qui tournait,
la roue.
Voilà, l'intérieur qu'on a pu, disons, photographier. En ce qui concerne la scie, on n'a que, bien sûr, le canal de dérivation qui alimentait la scie et qui se trouve en bordure du Cholet avec la prise d'eau qui se trouve ici. Voilà.
Et là, en petit encas, c'est le rapport de monsieur Rimbaud, déjà un Rimbaud qui n'a rien à voir avec Guy Rimbaud. Je lui ai demandé, des eaux et forêts, déjà un Rimbaud.
Ouais, parce que notre adhérent était des eaux et forêts, et il y a un ancêtre qui était à cheval, et qui était également des eaux et forêts, mais qui n'est pas parent.
C'est vraiment.
Disons, c'est l'état actuel de nos recherches. Il faudrait refouiller encore aux archives départementales.
C'est sans fin,
ça demande,
parce
je pense pas.
Après, il faudrait tout éplucher, les registres des notaires, etc. Tu n'en finis pas.
Là, déjà, rien qu'on trouvait ça, deux ans, fouiller aux archives, pour trouver.
C'est le travail de fourmi, ça.
C'est sans fin. Et puis. Quand on trouve quelque chose, on est vraiment satisfait.
Oui,
mais combien de fois vous y allez, vous trouvez que dalle, rien. Tourner des pages et des pages pour.
Après, vous avez pu faire d'autres découvertes de manière parfois incidence.
Mais alors, après, on se fait l'argent.
Oui, voilà, ça fait peu, on peut perdre le fil de recherche rapidement.
Je n'ai pas dit qu'un jour, en cherchant peut-être autre chose,
vous retomberez sur ce que vous cherchez.
Fin de cette balade découverte de Comblaval à travers son patrimoine économique et industriel. Un itinéraire organisé et commenté par l'association Royan d'hier et d'aujourd'hui, sous l'égide de l'Office de tourisme du pays du Royan, dans le cadre de la manifestation « Fenêtre ouverte sur Comblaval » enregistrée le 2 juillet 2013. Pour retrouver les différents commentaires que vous avez pu entendre et pour en savoir plus, une brochure est disponible « Comblaval retour aux sources » qui retrace l'origine et l'histoire de cette comble sous tous ses aspects. Un film sous DVD Comblaval porte ouverte sur un bout du monde évoque également cette remarquable reculée. Ces deux productions réalisées par l'association Royan d'hier et d'aujourd'hui sont en vente à l'Office de tourisme du Pays du Royan, à Saint-Jean ainsi que dans les magasins de presse de Saint-Laurent et de Saint-Jean. Enfin, en ce qui concerne l'histoire des forges, on peut se reporter à l'article intitulé « Les forges de Saint-Laurent » rédigé également par des membres de l'association au sommaire du numéro 548 de juin 2013 de la revue drômoise de la Société d'archéologie, d'histoire et de géographie de la Drôme. Prise de son, montage et mixage de cette balade découverte à Radio Royale.